Non mais t'as vu Michel ? Il est tout fier depuis qu'il a mis en place le tri sélectif dans ses bureaux.
Ouais, enfin, moi aussi, ma boîte est bon élève. Et je l'ai pas dit à tout le monde. Quel fanfaron celui-là.
Tu m'étonnes.
Participez activement à la transition énergétique avec les offres vertes d'EDF Entreprises, leader dans la fourniture d'électricité verte pour les entreprises. Devenons l'énergie qui change tout. Les offres vertes sont des offres de fourniture d'électricité à prix de marché fixé par EDF, sans engagement. Origine renouvelable certifiée avec les garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC. After Saint-Étienne. Le podcast Gilbert Bribois.
Chers supporters d'Ivan Kurkovic et de Mathieu Bodmer, bienvenue dans le podcast After Saint-Etienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts avec aujourd'hui Emmanuel Petit. Manu, bonjour.
Salut Gilbert, salut Joss, salut à tous.
Et avec notre ami Joss Randall du site peuple-vert.fr, bien sûr, que vous retrouvez avec ses avis toutes les semaines sur le net. Salut Joss.
Bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
L'évaluation de l'after, évidemment, après le match face à Montpellier. Et puis, deux débats à suivre. Mais que se passe-t-il dans la tête de Stéphane Ruffier ? Ah oui, j'aimerais bien savoir, moi, parce que on l'a vu avec des hauts et des bas depuis le début de la saison. Là, c'était plutôt un haut, donc, face à Montpellier. Et puis, les soucis d'attaque chez les Verts. Pourtant, il y a du matos. Et on a vu contre Montpellier que bon, bah, ça n'a pas marché. Que faut-il faire ? Débat à suivre, bien sûr, tout de suite dans le podcast After Saint-Étienne. On démarre par l'évaluation, un taulier, un boulet après le match face à Montpellier. Juste petit préambule quand même, un match bien bien chiant. C'était pas le match de l'année, loin de là les gars. Hein.
Ah bah non, c'était un bon somnifère du dimanche après-midi. Ouais.
Ouais. Ah bah moi je vais apporter un éclairage différent. C'est intéressant parce que je voulais en parler ça. En ultra rapide, j'ai noté depuis quelque temps une distorsion de la perception entre ce qu'on peut voir quand on est au stade et ce que voient les gens derrière la télé. Mm-hmm. Et ça peut faire un sujet de débat, c'est un soir, si vous savez pas de quoi parler. Je l'ai noté depuis assez longtemps quand j'échange avec mes potes qui eux sont devant la télé après le match. Je m'aperçois qu'on n'a pas forcément la même perception. Là, c'était particulièrement le cas. C'est-à-dire que j'étais avec deux amis au stade. Et, notamment à la fin de la première mi-temps, on avait l'impression de voir plutôt un bon 0-0. Deuxième mi-temps, moins bien, on a été très dominé. Bon, on a quand même une occasion à la fin qui peut faire un 0. On termine le match, on s'est dit, on a vu pire, quoi. Voilà. Et je commence à échanger avec mes potes, je commence à regarder un peu les réseaux sociaux et je vois une avalanche de critiques sur match soporifique, on s'est fait chier, on s'est ennuyé, machin. Et du coup, on en a débattu sur place. Je voulais savoir si ma perception était liée au whisky bu en loge ou à autre chose. Et mes potes sur place m'ont confirmé qu'ils avaient le même sentiment que moi. Et du coup, je suis un peu... pourtant, ceux qui lisent mes chroniques savent que j'ai des avis plutôt tranchés. Ben, d'habitude, j'ai des avis plutôt tranchés. Mais là, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi en penser parce que j'ai vu des choses plutôt intéressantes.
Alors, si je puis me permettre... Il y a quelque chose aussi quand on est supporter d'un club, parce que c'est le cas, toi tu souhaites voir les Verts gagner. C'est-à-dire que tu n'es pas impliqué de la même façon, que tu sois au stade ou devant la télé sur un match, quand tu souhaites ardemment la victoire d'une des deux équipes. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais je l'analyse un peu différemment.
Ça peut un peu, comment dirais-je, tordre la perception qu'on a du match.
Alors oui, mais dans les gens qui m'ont fait un retour très négatif sur le match tout de suite après le match, j'ai des potes qui sont aussi très impliqués. Moi, je mettrais plutôt ça sur le compte du fait que quand on regarde un match chez soi, on a une lecture qui est donnée par le commentateur, quoi qu'il arrive.
Évidemment. Et par un réalisateur
qui choisit les images. Mmh. On a des tonnes d'images sur une action qui, au stade, vous l'avez qu'une fois, vous avez 10 000 personnes dans le COP qui hurlent, donc vous avez l'impression que c'est l'action de l'année, alors qu'en fait, les mecs à la télé voient que le ballon est passé 5 mètres à côté. Il y a plutôt des choses de cet ordre-là. Mais c'est la première fois que j'ai cette distorsion à ce point-là. Donc moi, je vais... Les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai lu quand même 90% de critiques, médias ou autres réseaux sociaux qui disaient que c'était un match chiant. Donc probablement que ça l'était. Mais moi, ce n'est pas la perception que j'ai eue sur place. Mm-hmm. Et je termine en rajoutant un truc. C'est qu'il ne faut quand même pas oublier... Il y a quand même deux, trois faits qu'il faut noter. C'est qu'on a eu 4 cases francs dans le match. Et moi, je suis désolé, depuis 30 ans, des matchs où j'ai pas eu 4 ou 4 franges de la SS à Geoffroy Guichard, j'en ai vu un paquet. et puis, rappeler quand même qu'il y avait, il a joué avec 11, c'est dingue, tellement c'est énorme, une équipe complète de titulaires normalement potentiels à l'infirmerie. Et qu'il a terminé le match avec 6 gamins de 21 ans sur la pelouse.
Ça compte.
6 gamins de 21 ans sur la pelouse, il termine le match comme ça. Donc, je pense que ça incite quand même un tout petit peu à l'indulgence. Voilà, c'est tout.
Alors, après ce long préambule intéressant, malgré tout...
Ouais, mais pourtant, j'ai fait court.
T'as pas fait court du tout, mais c'est pas grave, c'était bien. Taulier,
j'ai fait court à la Riolo. Voilà.
Qui avez-vous vu comme taulier sur ce match?
Pour moi, c'est comme le nez en plein milieu de la figure, hein, encore une fois, et c'est ça qui m'inquiète. Alors, pour moi, le seul point positif, hein, pour revenir sur ce que
c'est
vient de dire
Joss... C'est qui le meilleur joueur de la figure, alors?
T'as pas dit qui?
C'est Ruffier, oui. Évidemment. Ouais, quand ton meilleur joueur, c'est le gardien de but, quand tu joues à domicile, ça montre quand même que t'as éprouvé d'énormes difficultés chez toi. Alors, j'entends qu'il y a eu pas mal d'absents, mais...
Ouais, mais il fait que 2 arrêts, Manu, quand même. Enfin, il a été présent sur des arrêts
Des arrêts décisifs.
Mais en dehors de ça, il a pas beaucoup de
boulot. On va se garder les billes sur Ruffier parce qu'on va faire un petit débat ensuite. Mais c'est à mettre en parallèle avec ses prestations récentes, notamment en Coupe d'Europe.
Quand j'entends l'excuse, sans être une excuse, du fait qu'il y a 11 joueurs titulaires, potentiellement titulaires, qui étaient absents sur blessure ou autre, il a quand même un effectif de plus de 30 joueurs. Et c'est d'ailleurs la problématique essentielle à gérer du côté de Claude Puel. Heureusement qu'il joue tous les 3 jours, donc il peut satisfaire tout le monde en temps de jeu. Donc pour moi c'est Ruffier et comme c'est souvent le cas du côté de Saint-Etienne. Et le seul point positif, pour revenir à ce que tu as dit Joss, c'est que Saint-Etienne continue son invincibilité depuis l'arrivée de Claude Puel. Pour moi c'est souvent c'est pour moi l'essentiel de ce match d'hier.
Tu as un taulier différent ou tu dis Ruffier aussi
Non, il faut juste dire qu'en plus il bat le record de Kurkovic, c'était sa journée quoi.
Alors on aurait pu mettre Perrin qui a fait un bon match.
C'est un match correct, ouais.
Ouais.
Bon non, mais, je veux dire, on l'a assez fracassé ces dernières semaines pour ne pas signaler quand il fait un bon match. Voilà.
Ouais. C'est ton boulot, quoi.
Voilà.
Il fait un bon match.
Voilà. Oui, bon, il a fait le minimum, si je comprends bien.
Non, il a été plutôt bon. Après, le ressortir comme taulier...
il y avait des mecs en perdition. Claude Isaac, qui a quand même fait des matchs tout pourris ces derniers temps, il a aussi fait un bon match. Bon, après... Ruffier reste le taulier, mais il y en a d'autres.
Alors, les supporters stéphanois ne sont pas du tout de ton avis.
Ah bon ?
Démonter le colo. Je suis plutôt de ton avis, moi. C'est-à-dire que, techniquement, il a toujours été aussi pauvre dans ses relances. Par contre, il y a une chose qui a changé, par rapport au dernier match. C'est que dans l'implication défensive, dans la rapidité d'intervention, il a été là. Il a été vraiment là. Et à la limite, si déjà il retrouve ça, on a déjà fait la moitié du chemin.
Boulet ? Joss ? Manu ?
Pour moi, c'est Miguel Trocco. Mes impressions se confirment. Ça ressent un peu l'arnaque. Je comprends un peu mieux pourquoi Pierre Ducrot arrivait à le refourguer à personne cet été. c'est un mec qui fait tout à moitié, quoi. Il défend un peu, mais mal. Il attaque un peu, mais mal. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a une intelligence tactique relativement faible. Si on compare par rapport à Honora, qui n'a pas fait un gros match, qui avait été bon à Nantes, mais qui s'est quand même un peu plus montré, il est resté collé à sa ligne à 20 mètres de colo. C'est-à-dire qu'on joue dans une défense, dans un système à 3 plus 2 pistons, et le piston, il reste collé au défenseur central axe gauche, donc ça ne sert à rien. En fait, il a plus gêné Colo qu'autre chose. Il a, je crois, pas fait un centre du match, ce qui prouve qu'il a été rarement en situation offensive. Il n'a pas beaucoup aidé Colo défensivement. Enfin, pour moi, c'est un mec qui ne sert à rien. Voilà.
Manu ?
Oui, j'aurais pu dire ça, mais moi je veux dire les deux garçons qui étaient derrière Bouanga, quoi. Que ce soit Riyad Boudbouz ou même Nordin. Je suis assez déçu quoi, des performances de ces garçons depuis le début de saison. Nordin, de temps en temps, il m'a plu sur certains matchs, mais trop peu d'irrégularités, et sans parler de Riyad Boudbouz, quoi. Je veux dire, je ne sais pas si c'est un problème physique, un problème mental, je n'en sais rien, mais ce garçon est très loin de son niveau, ce qu'il est capable de faire en termes de qualité technique, mais de créativité aussi.
Ça commence à siffler fort.
Les deux, mais même Nordin, je trouve qu'ils sont trop peu décisifs, à la fois dans les passes décisives, mais dans les buts, alors qu'ils occupent des postes qui sont quand même essentiels pour Saint-Etienne. Et je pense que...
Peut-être. On peut voir un peu dur avec Nordin. Il fait un bon centre.
Ouais, mais c'est
un peu dur avec Nordin.
Voilà. Il y a pas, assez... ouais, enfin, il... le
ah,
problème,
c'est pas assez, hein, je suis d'accord.
En termes de statistiques, mais... quand tu joues là, il a souvent été titularisé par Claude Puel. Il a du temps de jeu quasiment à tous les matchs. Je sens pas une progression, quoi. Et Riyad
Boudous. Le risque, c'est d'être l'éternel espoir, quoi. C'est voilà. Non, c'est bah, moi, plus tout à fait un espoir. Et
pour compléter les boulets, moi, je mets Bouanga. Pourquoi ? Parce que en fait, il avait l'opportunité. Bon, et Bouanga, c'est en fait, c'est typique le genre de Ligue 1. C'est-à-dire qu'il va te faire le match fantastique, puis derrière, pam, tu vois, il passe au travers. Là, il avait l'opportunité de ça, de tu vois, de montrer, de dire, il y a des mecs.
Ouais, mais à sa décharge, ces derniers temps, il a été souvent décisif aussi. Hein, donc,
bah ouais, là, mais justement.
Mais là,
ouais,
au bout
de boost, enfonce le clou, mon pote.
Là, t'es dur sur Bouanga parce qu'il a le droit de se rater sur un match. Riyad Boudbouz depuis le début de saison,
font. Oui. Rater sur quasiment tous les.
Et puis Bouanga, hier, il se rate pas sur un match. Il fait une première mi-temps plutôt correcte. C'est lui qui se crée les meilleures occasions. Alors, il pêche dans la finition. Ça,
bah,
c'est clair.
C'est quand même pour un attaquant.
Mais il est, oui, non, je suis d'accord. Mais il est quand même dans le match, la première mi-temps. Après, il a complètement plongé en deuxième mi-temps. Alors, bon, il avait joué deux matchs avec le Gabon où il est marqué d'ailleurs. Voilà, il enchaîne tous les matchs. Lui, il joue avec la SS, il joue en sélection. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais je l'ai trouvé plutôt intéressant sur la première mi-temps quand même.
On enchaîne. Mais que se passe-t-il dans la tête de Stéphane Ruffier, capable de nous faire une sortie indigne de lui en Coupe d'Europe contre une équipe d'Ukrainiens de niveau D2 française, enfin, Ligue 2 maintenant, on dit comme ça.
Tu parles d'Alexandria.
Alexandria. Et capable de te faire des arrêts incroyables donc là contre Montpellier. Je pense évidemment notamment celui face à Laborde. Je veux dire. Il est quand même assez inconstant depuis le début de la saison.
Oui, mais je pense qu'il a été, impacté par ce qui se passait au club depuis le début de saison. À l'image de beaucoup de tauliers aussi du côté des Verts, qui étaient loin de leur niveau et qu'on sentait qu'il y avait une sinistrose dans le vestiaire, à la fois sur le terrain en termes de résultats, mais également on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le vestiaire. Donc après, il y a eu le changement d'entraîneur, certes, mais Ruffier, qui a été souvent le premier rempart à tous les niveaux, et une référence du côté des Verts, c'est vrai qu'il n'a pas su émerger à ce moment précis, mais je trouve qu'il revient bien, même si ce n'est pas non plus, je passe au plafond. Mais si tu devais citer un joueur ces dernières années du côté des Verts, pour moi c'est Ruffier, voilà.
Ah oui, bah c'est sûr. Non, mais là, on parle du début de saison et du match de ce week-end.
Mais il va revenir parce que tu ne peux pas perdre tes qualités, ton leadership comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, la série d'invincibilité, le travail qu'est en train de faire Claude Puel et donne ses fruits. On le voit sur les résultats. Après, dans le contenu, ça va s'améliorer. Mais je trouve plutôt que les choses sont encourageantes et je pense que Ruffier sera un des principaux relais de Claude Puel sur le terrain.
Jose, ton avis ?
Bah déjà, je note que Gilbert n'a absolument pas digéré la boulette de Ruffier avec Sandria.
Non, mais il n'avait pas le droit.
Il a ça à chaque fois.
Non, mais il n'avait pas le droit. Il y a des moments dans la saison où quand tu es un leader d'une équipe, tu dois tenir tes mecs. Voilà. Oui. Là, tu avais un match où tu étais en galère, où tu te dis, c'est pas possible, c'est indigne de nous, tu vois, de ne pas gagner ce match-là.
Il n'a pas été aidé par ses collègues de la défense.
Ok, mais c'est lui le mec qui est censé tenir le truc. Qui flanche, tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment
d'abord,
que c'est...
Il n'est pas forcément tenté, enfin, il n'est pas censé tenir le truc tout seul déjà, et pendant tout le match, je répète, hein, pendant ce match-là, il nous a sauvé plein de fois.
Bah oui.
Donc bon, au-delà de ça, je ne sais pas si vous avez lu, c'est assez intéressant, tous les gardiens de France et de Navarre sont exprimés sur Ruffier la semaine qui a précédé son record. Et il y en a un qui a été assez dur, c'est Gilbert Secarelli qui l'a carrément traité de prestataire de service.
Ah bon ?
C'est-à-dire, le problème de Ruffier, c'est le personnage qui est clivant, parce que sportivement, ok, sur 9 ans, il y a eu quelques passages moins bien, enfin, c'est quand même un mec qui est quand même vachement constant dans les performances. C'est-à-dire, depuis là, pas uniquement depuis dimanche, mais depuis quelques matchs, il nous rapporte des points.
Oui.
Voilà, s'il y a un problème Ruffier, c'est à cause de sa personnalité. Et c'est vrai que c'est un mec qui, on a l'impression qu'il ne fait pas partie du club. Ben, on dirait ça qu'il ne fait pas partie du club.
Il a une vie parallèle aux autres, en fait.
Exactement. Le jour où vous voyez Ruffier faire le chant avec tous les autres lors d'une victoire dans le vestiaire, il faut garder la vidéo parce que ça arrive une fois tous les 4 ans, quoi. Mais une fois qu'on a admis ça, il faut bien reconnaître quand même que c'est un super gardien, qui a des performances, qui rapporte des points, qui, comme tout super gardien, a le droit de passer à travers sur une courte période ou sur un match. Mais grosso modo, moi, je trouve qu'il est un peu égal à lui-même depuis qu'il est chez nous, quoi. Il faut le prendre comme il est, Ruffier. Voilà, il faut le prendre comme il est.
On enchaîne et on va parler de l'attaque. Oui, puisqu'en l'absence de certains tauliers, absence aussi, on va dire, de performance d'autres, on se rend compte que, mine de rien, rien n'est vraiment lisible en attaque à Saint-Etienne. Attention, Jos Randall va nous parler de Berić. qu'est-ce qu'on fait et quel diagnostic doit-on faire des carences en attaque des Verts? C'était une explication, Manu, toi?
Pour moi, c'est la qualité intrinsèque des joueurs, même si je reste persuadé qu'il y a de la qualité. Mais encore une fois, c'est à l'image de Riyad Boudbouz ou de Kazri, tous ces joueurs-là qui m'ont émerveillé ces dernières années, que je trouve que depuis un petit moment, ils sont très loin de leur niveau. Encore une fois, je ne sais pas si c'est physique, mental ou autre, mais ça pose un sérieux problème pour Claude Puel pour choisir certains joueurs, pas en fonction de leur nom, de leur état de forme. Et aujourd'hui, il marche sur des œufs parce qu'il ne sait pas d'un joueur à l'autre. Quand on regarde Kazri, moi, ce que je l'ai vu faire l'année dernière avec les Verts, ou même avant, quand il était à Rennes, j'ai beaucoup aimé le joueur. Boudbouz, c'est pareil. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec ces joueurs-là? Ils en sont où à l'heure actuelle? Et c'est la question que je me pose.
Et c'est une accumulation de mystères.
Oui, et je n'arrive pas à comprendre.
Jos?
Il y a plusieurs niveaux dans l'analyse. D'abord, il y a un problème d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excentrés, peu de centraux. En centraux, en attaquant centraux, Axio, on a Berić, Diony et Abi, qui est un gamin de 19 ans. Après, il y a un problème de performance, effectivement, inégal, pour certains très probablement de préparation, Sidy Kazri, Boudbouz. Et puis après, il y a un problème là qui est très actuel, c'est que, alors, c'est vrai que Claude Puel a dit 30 joueurs, c'est trop. Avec une seule compétition, on n'arrivera pas à avoir un groupe qui travaille avec la concurrence. Alors, heureusement qu'on les a, les 30 en ce moment, parce que je reviens là-dessus. On a un autre niveau, enfin, un autre problème qui devient récurrent pour certains, c'est que les mecs sont jamais valides, quoi. Romain Amouma, je suis désolé, mais Romain Amouma, c'est un super joueur de foot. Mais on parle souvent de Neymar qui a fait moins d'un match sur deux à Paris, mais j'aimerais qu'on calcule le nombre de matchs qu'a fait Romain Amouma sur le nombre de matchs qu'il aurait pu jouer depuis qu'il est chez nous. Je ne sais pas si on est très loin de ça. Il est tout le temps blessé. Il arrive quand même à se blesser pendant une trêve internationale où lui ne joue dans aucune équipe internationale.
On va voir ce qu'il va faire. Il faut qu'on s'arrête là. Le temps est dépassé. On va voir ce qu'il va faire, évidemment, face à la Gantoise jeudi en Europa League et à Rennes ce week-end. Merci, Joss. On te retrouve donc sur peuplevert.fr, bien sûr, comme d'habitude. Manu, merci beaucoup. Prochain podcast.
Salut, Joss.
La semaine prochaine.
Salut.
RMC. After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.